franceinter.fr.
Sous Brejnev, il y avait une jeune femme russe dans une université, spécialiste en littérature romantique anglaise. Cette jeune femme a été mise au cachot, sans lumière, sans papier ni crayon, sur une délation idiote et totalement fausse, bien sûr, pas besoin de le dire. Elle savait par cœur le Don Juan de Byron, c'est 30 000 vers ou plus. Dans le noir, elle le traduit mentalement en rime russe. Elle sort ayant perdu la vue. Elle dicte la traduction à une amie. C'est maintenant la grande traduction russe de Byron. Devant ça, je me dis plusieurs choses. D'abord que l'esprit humain est indestructible, totalement. Deuxièmement que la poésie peut sauver l'homme, même dans l'impossible. Troisièmement, qu'une traduction, même avec l'imperfection humaine, traduit ce qu'elle traduit, ce qui est une autre façon de dire que langage et réalité ont un rapport. Et quatrièmement, je me dis qu'il faut être très joyeux.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Il y a une quinzaine d'années, George Steiner participait à une émission de la télévision hollandaise qui, durant des mois, avait donné la parole à des artistes et des intellectuels sur le thème de la beauté et de la consolation. Parlant bien sûr de ses auteurs de chevet, Steiner racontait aussi ses histoires du passé qui l'aidaient à vivre. Celles que l'on vient d'entendre, comme celles sur Nadeja Mandelstam, faisant apprendre par cœur à ses amis les poésies interdites de son mari Ossip, envoyé au goulag, étaient, disait Steiner, ses remèdes contre le pessimisme. Découvrant par hasard et des années plus tard sur YouTube cette interview de George Steiner, un jeune metteur en scène de théâtre portugais, Tiago Rodriguez, en fit le point de départ d'un merveilleux spectacle intitulé By Heart, que l'on a pu voir récemment au théâtre de la Bastille à Paris, sur la beauté de la poésie et la consolation que nous offrent les livres, sur l'importance du partage et de la transmission. Car sous ce grand mot de culture, dont certains politiques croient toujours intelligent de se moquer, c'est en fait un manuel de survie pour temps difficile que l'on peut trouver. Et lequel d'entre nous dirait qu'il n'en a pas besoin en ce moment ? Le 7 janvier 2015, si notre vie a changé, celle de Catherine Meurice s'est littéralement désintégrée. Comme le dessinateur Luz, elle était en retard à la conférence de rédaction de Charlie. Le hasard a donc fait qu'ils n'ont pas été abattus avec leurs amis. Mais quelque chose d'eux-mêmes n'a pas survécu au massacre. Dissociés, disent les psys, pour parler de cet état de sidération qui fait que l'on perd la mémoire, les mots, l'envie et même la notion du temps. Il leur a fallu faire, au prix d'un douloureux effort, le numéro 10 des survivants et participer, un peu comme des zombies, aux manifestations d'après. Mais ensuite, comment retrouver sa place dans un monde déserté, effrayant, sans cohérence ni consolation ? Aller voir la mer, enlacer un arbre, marcher dans la campagne, mais c'était comme se déplacer derrière une vitre. Catherine Meurice va alors tenter l'overdose de beauté en séjournant à Rome, où tout parle de la permanence et des traces laissées par les artistes. Et puis, retrouvant peu à peu l'usage de ses crayons, elle a réalisé un album sublime nommé « La légèreté », édité chez Dargo et qui raconte son retour parmi nous. Bienvenue donc à Catherine Meurice, qui est ce soir l'invitée de l'Humeur Vagabonde.
I'm just a girl, a wonderful girl, the sweetest one in town. You can search for miles around and no one like me can be found. I got a smile, a wonderful smile, a certain little way. Every time the boys get near me, they look at me and say, red hot mama, red hot mama, girl, the one we need. Red hot mama, some charmer, yes indeed. They said it, I should be hot tamales. They said that I got a pair of eyes just like old Svengali's. I confess that I possessed the sweetest charms in town.
funky music master. Drop his fiddle and a bald-headed man cut his hair in a minute. I'm a red-hot mama, red-hot mama, and I have to turn my damper down. One in town, you can search for miles around, and no one like me can be found. I got a smile, a beautiful smile, in a certain little way. Every time the boys get near me, they look at me and say, red hot mama, red hot mama, I'm the one they need. Red hot mama, some charmer, yes indeed. They say that I must be in the follies, hot tamales. They said that I got a pair of eyes just like old Svengali's. I confess that I possess the sweetest charms in town, and unless I miss my guest, the boys will follow me around. I can make a Texas farmer forget his hay, the devil throw his fork away. Red hot mama, red hot mama, but I have to turn my damper down.
Le fait de réciter du Baudelaire dans les latrines du petit camp de Buchenwald pour tenir le coup était assez banal. Mmh. D'ailleurs, nous récitions des poèmes français, mais j'imagine que d'autres récitaient des poèmes allemands ou tchèques ou j'en sais rien. Je crois que c'est absolument normal et banal de faire ça. Pour survivre, c'était sûrement une chance d'avoir la mémoire et de pouvoir se réciter. Mais c'est évident. C'est évident de pouvoir s'abstraire, s'isoler, se redevenir quelqu'un d'individuel dans cette espèce de magma de la vie concentrationnaire où on vit tout le temps entassé les uns sur les autres, où on entend le moindre bruit de respiration, ou le moindre bruit viscéral autour de soi, c'est amplifié par le fait qu'on est quatre dans un chalet qui est conçu pour deux personnes, etc. Pouvoir s'isoler de tout ça et retrouver une certaine autonomie personnelle, une certaine indépendance personnelle à travers la mémoire et la récitation, même à voix basse, je crois que c'est absolument décisif. Ceux qui n'ont pas pu se réciter des poèmes ont dû avoir encore plus de difficultés à survivre.
Bonsoir Catherine Meurice.
Bonsoir Kathleen.
On vient d'entendre toutes ces paroles que l'on connaît d'ailleurs, mais que l'on éprouve vraiment quand on en a besoin. Alors réciter des poèmes dans les latrines de Buchenwald, on savait bien que Sam Proun l'avait fait, et tant d'autres aussi, et que ça avait aidé à vivre. Vous aimiez bien, avant tout ça, Jacotet, Baudelaire, vous le saviez que c'était des aides à vivre. Et en même temps, il fallait le réapprendre après ce qui vous est arrivé. Ça a mis du temps à revenir.
Oui, ça a mis du temps, toute l'année 2015, en fin de compte. Et aujourd'hui seulement, on est en mai 2016, je remets le nez dans les bouquins, je rouvre les livres de Jacotet, je redécouvre Proust, je le relis. Donc c'est long. Et je me souviens vraiment, après l'attentat contre Charlie, avec épouvante, j'ai vraiment cru que je ne retrouverais plus la mémoire. Et oui, je me souviens de cet effroi-là, parce que là, mon métier disparaissait, je disparaissais totalement. Je crois que quand la mémoire n'est plus là, on n'est plus là, on n'est plus
oui,
au monde.
Oui, c'est vous qui disparaissiez. Parce que là, par exemple, Sam Proun, il disait quelque chose. Il disait, c'est pas seulement que ça faisait du bien de se réciter des choses entre amis, mais c'est qu'on redevenait quelqu'un au milieu de la masse indistincte. Et vous, ce qui est frappant dans ce livre, La légèreté, c'est que vous cherchiez à réemployer le mot « je » qui avait disparu dans cette fraternité formidable, ce collectif qui était « nous sommes tous Charlie ». Bon, mais en même temps, soi-même là-dedans, il fallait retrouver ce qui vous remplissait avant et qui avait provisoirement disparu.
Oui, oui, exactement. Tout ce qui s'est passé en janvier, dans les mois qu'on suivit, était un nous immense, envahissant, nécessaire aussi. Hein. Bien sûr, on devait se sentir ensemble pour affronter cette horreur, mais dans ce nous, on peut aussi se perdre. Et il a fallu que je cherche à me retrouver, j'allais dire un peu, non, beaucoup, totalement, même en tout cas, là, je suis encore en train de le faire. Et c'est passé par une collecte, en fait, une tentative de récolte de souvenirs, d'émotions surtout, parce qu'il n'y avait plus d'émotions. J'ai essayé d'être attentive, extrêmement attentive, toute l'année 2015 à ce qui se passait en moi. J'ai essayé de me protéger de ce qui se passait autour de moi. Alors, sauf évidemment l'aide des proches, bien sûr, des gens qui vous apportent de l'amour et de l'amitié, mais il fallait être il fallait que je revienne à l'intérieur de moi. Voilà, il fallait que je fasse cette traversée très personnelle qui allait être longue et laborieuse pour ensuite, notamment après ce livre-là, La légèreté, pour pouvoir être de nouveau avec les autres. Aujourd'hui, je le suis de nouveau, oui.
Mais en même temps, Catherine Meurice, c'est étrange parce que avant, vous étiez pleine de cette beauté. Vous étiez, tous vos albums précédents racontaient cela. Les livres, les auteurs qui vous étaient chers, proches, qui vous nourrissaient, les œuvres d'art, les peintres, énormément, tous ces livres que vous avez faits, Mes hommes de lettres, Le pont des arts, Moderne Olympia, tout ça racontait votre univers. Et en fait, votre univers était déserté, donc. Il a fallu réapprendre, réapprendre vraiment, réapprendre à lire, réapprendre à voir, à regarder.
Exactement. C'est vrai qu'avant, je m'entourais de grands écrivains, de grands peintres, et je m'amusais à les faire sortir du Panthéon pour les mettre sur scène. En fait, c'était moi le metteur en scène, et avec mon crayon, je tapais les trois coups et je demandais à Flaubert, à Proust de vivre leur vie sur scène, et je pouvais rajouter quelques gags, pas tant que ça, parce qu'eux-mêmes sont déjà très drôles quand ils y regardent bien. Et j'avais ce plaisir d'être metteur en scène ou chef d'orchestre. Je pouvais chorégraphier comme je voulais et m'entourer, m'envelopper en fait de ces grands esprits qui m'ont toujours accompagnée sans que j'aie vraiment peur d'eux. Enfin, la littérature ne m'a jamais fait peur. Pourtant, je suis pas non plus une érudite, mais voilà, c'est comme ça. Je trouve qu'ils font partie de notre vie. On a besoin d'eux pour ne pas être avachi intellectuellement, pour être toujours éveillé. Et là, après le 7 janvier, plus rien. Plus rien, je n'avais plus la force de les convoquer, je n'y arrivais plus, mon imaginaire était bloqué et il a fallu que je leur ai presque demandé de me prendre par la main. C'est ce qui se passe dans mon album, dans La légèreté, je me dessine à côté de Stendhal, ce n'est plus Stendhal que je vais que je vais mettre sur scène, là je suis avec lui, on fait même un selfie ensemble, parce qu'il se trouve qu'il a une perche à selfie sur lui, je demande à Proust de m'aider, là je suis clairement avec eux, je me représente avec eux, j'ai besoin d'être aidée, c'est vraiment, oui, j'ai demandé à ce qu'ils soient mes secouristes, mes aides-soignants, ou Proust était déjà mon auxiliaire de vie, comme je le dis, là, et je lui demandais plus encore. Et oui, c'est vrai que pour moi, enfin, en tout cas, le dessin me permet, il a fallu que je retrouve ce dessin, il me permet de m'entourer de ces gens-là. Et j'ai retrouvé un mot de Proust qui dit sur la lecture, qui est un beau petit bouquin, une préface à un ouvrage de Ruskin, il dit que la lecture est une amitié. Et pour moi, le dessin est une amitié, en fait. Voilà, c'est aussi précieux que ça. C'est tout simplement ça.
Oui, la beauté et l'amitié, c'est drôle parce que vous dessinez à un moment dans La légèreté, Catherine Meurice, un petit dialogue que vous avez avec une amie qui vous dit, qu'est-ce que tu cherches, la beauté, alors qu'elle vient de vous dire que elle, ce qui l'a fait vivre, c'est l'amitié et la culture. Et alors vous répondez, moi c'est la beauté. Elle dit, c'est pareil.
Oui, c'est pareil.
En fait, l'amitié et la beauté, c'est pareil.
Bien sûr, et je crois que j'ai été attentive, ou j'ai recherché en tout cas toutes ces formes de beauté pendant cette année 2015 terrible. Oui, l'amitié, les petites attentions des proches, des coups de pouce. Alors je ne me rendais pas compte de tout, c'est après que j'ai fait un travail. En tout cas, dans ce livre, j'ai essayé de consigner tous ces moments. Je ne sais pas si je les trouvais beaux au moment où je les ai dessinés. En tout cas, j'avais l'intuition qu'ils m'aidaient. Ça m'aidait de dessiner cette séquence à Cabourg où une amie me lit Proust. Ça m'aidait de dessiner cette autre séquence dans les Cévennes, en fait, qu'on a eu cette discussion avec une autre amie qui me dit que l'amitié, c'est comme la beauté. J'ai eu besoin de consigner ça comme si je récoltais des petits cailloux, mais des cailloux qui sont bien vivants, pas du tout inertes.
On a l'impression qu'il s'agit d'une vérification. C'est-à-dire que, et on comprend bien, avant dans votre vie, Catherine Meurice, avant ce désastre, tout était évident, joyeux, léger, c'était là et c'était une évidence. Et ensuite, en fait, vous avez reconquis un territoire d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus simplement une évidence, c'est devenu une nécessité. Il y a une gravité aussi dans la reconquête de tous ces domaines-là.
Oui, je crois qu'avant, je parlais de la beauté sans m'en rendre compte, peut-être en m'entourant des Flaubert, des Proust et des Gustave Moreau, etc. Disons que je prenais pas la beauté au sérieux. Après le 7 janvier, j'ai vraiment pris ce mot, cette notion au sérieux, plus que jamais. Et dans La légèreté, j'ai l'impression qu'il y a un lyrisme ou un romantisme absolu, mais que j'assume totalement. Alors, non pas que je me prends au sérieux, parce que ça, je peux pas, ce serait pas poli, mais ce serait pas naturel.
Et pas votre genre.
Et voilà, soudain, cette quête de beauté devient très sérieuse, très, très importante et vitale.
Alors, bien sûr, ici, on ne pouvait pas passer à côté de l'auxiliaire de vie.
Mais c'est quelquefois au moment où tout nous semble perdu que l'avertissement arrive qui peut nous sauver. On a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien, et la seule par où on peut entrer, et qu'on aurait cherché en vain pendant 100 ans, on y heurte sans le savoir, et elle s'ouvre. En roulant les tristes pensées que je disais il y a un instant, j'étais entré dans la cour de l'hôtel de Guermantes, et dans ma distraction, je n'avais pas vu une voiture qui s'avançait. Au cri du Watman, je n'eus que le temps de me ranger vivement de côté, et je reculai assez pour buter, malgré moi, contre les pavés assez mal équarris, derrière lesquels était une remise. Mais au moment où, me remettant d'aplomb, je posai mon pied sur un pavé qui était un peu moins élevé que le précédent, tout mon découragement s'évanouit devant la même félicité qu'à diverses époques de ma vie m'avait donné la vue d'arbres que j'avais cru reconnaître dans une promenade en voiture autour de Balbec. La vue des clochers de Martinville, la saveur d'une madeleine trempée dans une infusion, tant d'autres sensations dont j'ai parlé et que les dernières œuvres de Vinteuil m'avaient paru synthétiser. Comme au moment où je goûtais la madeleine, toute inquiétude sur l'avenir, tout doute intellectuel était dissipé. Ceux qui m'assaillaient tout à l'heure au sujet de la réalité de mes dons littéraires et même de la réalité de la littérature, se trouvaient levés, comme par enchantement.
Catherine Meurice, vous disiez tout à l'heure que, bien sûr, autour de vous, les amitiés, les gestes comptaient, mais il y a eu quelque chose, et on vient de l'entendre dans cette lecture de Proust, par Jean-Louis Trintignant, bien sûr, de se dire que, dans le passé, dans l'Antiquité, dans tous les siècles que vous avez explorés ensuite à Rome, dans la littérature, des gens étaient passés par des moments de désespoir intense et s'étaient rappelés ce qui raccroche à la vie, au fond. Et on vient de l'entendre, la nature, la musique, la littérature, la beauté, juste la beauté.
Oui, et d'ailleurs Proust, enfin, la recherche du temps perdu, il me semble, s'ouvre sur un... Comment dire, pas un néant, mais enfin en tout cas la peur de ne pas être aimé, la peur de maman qui ne viendra pas embrasser le narrateur, et toute la recherche va se construire à partir de cette peur là de ne plus exister probablement. Donc maintenant que je suis de nouveau un petit peu les pieds sur terre, que j'ai refait un peu surface, je rouvre un peu les livres et j'ai l'impression de retrouver ça partout, effectivement, dans la littérature, oui. Oui, comme si les écrivains, les artistes avaient besoin de traverser la douleur, de se souvenir de beaucoup de choses, de belles choses notamment. Oui, et de ne pas, comment dire, d'affronter la douleur au sens où il faut la traverser pour la cerner, pour lui donner corps presque, pour, non pas pour la comprendre, je pense pas qu'on puisse comprendre, mais en tout cas pour se comprendre, pour essayer de se trouver un sens. Et oui, peut-être que c'est une expérience universelle finalement, oui.
Oui, puis ce qui est frappant, c'est aussi ce lien tissé avec le passé. Parce que, en fait, se dire qu'on traverse quelque chose de très moderne, le monde dans lequel on vit se déconstruit sous nos yeux, on en a perdu les codes, et finalement, c'est ce qui s'est passé bien avant nous, sur les toiles, dans les livres, qui finalement nous raconte le monde dans lequel on vit. Ça, c'est assez... On le sent bien dans votre livre qu'il y a ce passage, comme si dans les statues de Rome, vous tendez la main aussi d'une certaine manière.
Oui, et au moment où j'étais face aux statues, je n'avais pas, comment dire, ce n'était pas calculé, cette pensée, il n'y avait pas, comment dire, de construction intellectuelle, ça venait comme ça en fait, j'étais face aux statues, je pensais pouvoir être apaisée par leur beauté, en fait elles me renvoyaient la violence du monde, j'étais... attiré, obsédé, comme je le raconte dans le livre, par les statues démembrées, mutilées. Je croyais y voir mes amis de Charlie, alors que je ne les ai pas vus. Je suis restée sur le trottoir après avoir entendu les tirs de Kalachnikov. Mais Et je voyais aussi les victimes du Bataclan et je me rapprochais ainsi de la mort, peut-être pour l'adoucir. Et je n'étais pas du tout comme dans un cimetière, c'était pas du tout morbide en fait, c'était beau tout simplement, parce que la beauté de ces marbres antiques, malgré cette violence, ces traces de la violence, déjà c'est la violence du temps aussi, c'est le temps qui est passé sur eux, donc c'est une violence beaucoup plus diluée. Et oui, et c'était un marbre blanc scintillant, et ces traces de la violence, elle me permettait de trouver une sorte d'apaisement de manière assez singulière. Oui, en tout cas je m'y attendais pas du tout. Oui.
Alors l'apaisement, vous avez dit le mot, Catherine Meurice, il vient aussi parfois de choses très enfantines, très ancrées en nous, comme par exemple enlacer un arbre.
Le bouleau est plein de tendresse, il a une façon d'être qui est tout à fait particulière. Par exemple, à l'automne, c'est lui le premier qui s'éveille, qui offre les ors de sa houppe, ce que nous nommons nous la houppette. En hiver, il y a sa blancheur qui tranche sur la grisaille d'ensemble, je pense, la blancheur de son tronc, de sa peau, comme son écorce, mais nous disons la peau du bouleau. Et puis, à l'éveil du printemps, dans le pré-printemps, c'est son mauve qui est une splendeur. Les mauves du bouleau, des bouleaux que nous voyons dans les jeunes coupes, c'est quelque chose qui, quant à moi, n'en finira pas de m'émerveiller. Mais on a chacun des relations comme ça. Il y a des hommes qui parlent aux arbres ici. J'ai connu des vieux qui parlaient aux arbres, qui passaient au bord d'un chêne, qui lui tapait sur le flanc comme un cheval. J'ai aussi un vieil ami qui est mort plutôt jeune et qui a fait exaucer un de ses vœux, qui était de planter un arbre dans une forêt pleine d'arbres, par définition. Et ça a été fait par ses camarades. Et cet arbre a grandi et chaque fois que je passe devant, je suis très ému, je vois mon ami. Mais ce sont des relations, des connivences, des communions qui sont, c'est très druidique. C'est difficile ici de ne pas se poser dans une forêt comme celle-ci, comme devant l'océan, de se poser le problème mystique. Je n'ose pas dire le problème de Dieu.
Catherine Meurice, un joli témoignage d'un écrivain, Yannis Hureau, entendu sur France Culture il y a quelques années déjà de ça. Mais pour vous qui avez grandi dans la nature, justement, c'était aussi une tentative de renouer avec les paysages familiers, les paysages réconfortants. On le voit même au début de votre livre, cette tentative d'aller vers la nature au bord de la mer, ce sont les premiers dessins. Et vous dites à ce moment-là qu'il y a quelque chose de presque insupportable dans ce que la nature vous renvoie, parce qu'il n'y a plus de filtre. Et vous êtes complètement traversé par les vagues, la lumière. C'est presque quelque chose qui a sauté comme une digue protectrice. Est-ce que c'était une souffrance de ressentir la nature à ce moment-là comme ça, ou est-ce que ça a été comme du vent dans la tête pour nettoyer?
Non, c'était pas une souffrance, c'était plutôt du vent dans la tête et dans le corps. Je crois que c'est, oui, cette première expérience face à l'océan qui ouvre la légèreté, où j'avais l'impression de voir l'océan pour la première fois. Mon corps semblait inerte et pourtant je pense que être face à ce paysage commençait à me faire vibrer tout doucement, commençait à me donner, peut-être un peu de vie. En tout cas, j'avais probablement, sans m'en rendre compte, là, la sensation que je n'étais pas complètement morte. En tout cas, je n'intellectualisais pas encore, mais ça allait venir. Et c'est vrai que j'ai cherché... alors, c'est une expérience très difficile à dessiner. C'est ça, je m'en suis rendu compte. Et j'ai cherché d'autres rendez-vous comme ça avec la nature. Et c'est vrai que comme j'ai grandi à la campagne... J'ai toujours été très contemplative à la campagne, je me suis jamais ennuyée, j'ai toujours aimé être dans les prés pour tout sentir, tout écouter, tout voir en fait, parce que la nature nous apporte tout, hein, y compris les sons aussi agricoles, enfin plein de choses comme ça qui me sont très familiers. Et j'ai cherché à retrouver ça pour me retrouver, et c'est vrai que être face à un paysage ou dans un paysage, parce qu'on fait partie du paysage, même si on en est spectateur, hein, ce paysage naturel, c'est, j'ai l'impression qu'on s'oublie et en même temps on se retrouve en fait, et en même temps on se reconnaît. Il y a vraiment quelque chose comme ça assez mystérieux et qui fait du bien, donc autant le renouveler. Et c'est vrai que dans ce son qu'on entendait tout à l'heure, qui est très beau, ça me faisait penser aussi à un livre de Genevoix, je crois, L'homme qui plantait des arbres, enfin bon, à toute cette littérature adulte ou jeunesse qui parle de la nature. Mais je me surprenais moi aussi à parler aux arbres, ce que j'avais jamais fait jusqu'ici. Je parlais tout à l'heure de Proust ou de Stendhal qui devaient me venir en aide, mais je m'adressais aussi aux arbres en disant « mais est-ce que tu peux pas me venir en aide ?» quoi. D'où cette séquence où j'enlace un arbre ou un chêne, c'est pas anodin, j'ai choisi le chêne, et je crois qu'il me fallait des symboles comme ça pour pas tomber. Où je l'enlace et je trouve chez lui une étreinte que je n'ai pas trouvé en 2015, malgré celle de mes proches, etc. Mais j'essaie de serrer dans mes bras quelque chose qui était présent, la nature donc, qui était présente avant la barbarie, tout simplement, quoi, avant le 7 janvier.
Alors j'ai ouvert votre livre, La légèreté, au tout début, au premier dessin, au pluriel. D'un côté, il y a ce que vous ressentiez devant la mer, c'est une plage grise, c'est une petite silhouette grise. Et puis la page d'à côté, il y a l'éclatement du Rothko, hein, on reconnaît, et c'est un coucher de soleil, et c'est le retour de la lumière. Alors la question c'est, est-ce que ces deux dessins ont été faits à l'époque, ou est-ce que c'est le souvenir et vous les avez faits après?
Je les ai faits 5 mois après l'attentat. Ce sont le dessin de couverture également. Ce sont les premiers dessins au pastel en couleur que j'ai fait après l'attentat. Je savais que cette séquence devait ouvrir l'album, cette séquence où je commence un cheminement. En fait, on me voit marcher sur la dune. Et c'est venu comme ça.
Et vous aviez gardé le souvenir de l'éclatement des couleurs tout d'un coup.
Oui, exactement. Et ce Rothko rouge, c'est à la fois j'aurais pas dit le retour de la lumière, c'est un incendie, c'est l'éblouissement face à ce paysage, et c'est aussi le brasier ou le magma qui n'était pas loin de moi, en fait, celui de janvier. Donc je suis à la fois dans ce rouge brûlant, et en même temps, effectivement, c'est la lumière, et c'est la lumière qu'on va retrouver à la fin de l'album, où je serai de nouveau sur cette dune, dans une lumière d'été, une lumière plus douce, et sur une double page comme ça, on ne sait pas trop où je suis, enfin, on sent que je suis face à la mer, mais c'est plutôt, je crois, un paysage intérieur que j'offre et qui peut peut-être être lu autrement par d'autres lecteurs. Enfin, je crois que la légèreté s'ouvre vraiment sur autre chose et aux autres aussi, à la fin.
J'aime les hommes qui sont ce qu'ils peuvent. Assis sur le bord des fleuves, ils regardent s'en aller dans la mer. Les bouts de bois, les vieilles affaires, la beauté d'Avaganer. Ça met dans leurs yeux un air de savoir que tout va dans la mer. La jeune fille adoucit des soirs de verre. Les bateaux, les avions de guerre, la beauté d'Avaganer. Les murs écroulés du monde, nos belles enfances blondes, Edith Nylon, les nageuses à l'envers, les odeurs dans les chemins de fer, la beauté d'Avaganer. J'aime les regretteurs d'hier, qu'on gagne, on le perd, qui voudrait changer le sens des rivières, retrouver dans la lumière la beauté d'Avaganer, retrouver les choses premières, la beauté d'Avaganer.
L'humeur est vagabonde sur France Inter.
Je ne sais pas par cœur, malheureusement, cette phrase de Kafka dans son journal qui dit que il va mieux parce qu'il a lu Strindberg, mais c'est pas parce qu'il a lu Strindberg qu'il va mieux. C'est parce qu'il a réussi à se loger dans les bras de Strindberg et finalement il a glissé un peu puis maintenant il est assis. Et c'est une magnifique définition de la lecture finalement. Parce que c'est ça un peu, c'est quand même se réfugier dans les bras de nos protecteurs. Je veux dire, les lettres de Kafka, les lettres de Flaubert même sont des écrits protecteurs pour le lecteur. Le plaisir qu'on y trouve est un plaisir, justement le plaisir d'être protégé. On a l'impression un peu idiote que si on a vraiment quelque chose à leur demander, ils nous le donneront. C'est évidemment tout à fait illusoire, mais ça fait partie des illusions nécessaires. Je crois qu'il y a quelque chose de purement physique dans la lecture. Enfin, je pense que l'envie de lire traduit mentalement un besoin physique, on va dire, plutôt. Je crois que on a envie d'être blotti dans un monde accueillant, et alors on lit.
Le merveilleux lecteur qu'était Pierre Dumayet, voilà, la lecture comme un refuge. Et il cite au début Kafka, et alors ça m'a fait penser à votre ami GB qui lui dit toujours qu'il faut faire un pas de côté, et Kafka qui lui dit que au fond écrire c'est faire un bond hors du rang des assassins. Donc il y a toujours cette recherche de protection d'une voix amicale qui vient. La lecture est peut-être ce qui a mis le plus de temps à revenir.
Oui, la lecture, car la concentration. Oui, oui. J'ai peut-être parcouru 3 livres l'an dernier que je n'ai pas retenu. Ça ne marchait pas. Et là encore, c'est difficile. Hein. Il faut que je retrouve vraiment la concentration. Mais je me retrouve totalement. Je pense qu'on est nombreux à se retrouver dans ce qu'on vient d'entendre. Là, ce besoin d'être enveloppé, d'être blotti, d'être sur les genoux. Je trouve ça absolument
surtout
génial.
Sur les genoux de Flaubert, j'imagine. Ah, que oui. Pour vous...
Moi, je tirerais les moustaches. Mais oui, bien sûr. Ah oui, oui, c'est très bien dit.
Ces lettres, l'échange des lettres avec George Sand, c'est quand même ce qui peut le plus consoler quand
bien
on
sûr.
Va mal.
Bien sûr. Et on parlait d'amitié... Tout à l'heure, oui, George Sand et Flaubert, c'est une histoire d'amitié. Flaubert aimait l'art absolument, l'art pour l'art. George Sand était peut-être un peu plus du côté de la vie. Ils ont essayé de se comprendre et de partager comme ça leur art et leur façon de vivre. Et oui, leur correspondance est extrêmement touchante. Flaubert, j'adore la vie de George Sand, plus que son œuvre d'ailleurs, je dois avouer, cette liberté qu'elle avait. Mais Flaubert m'attendrit plus, en fait. Il y a vraiment quelque chose de... Oui, cette quête qu'il a eue toujours d'être dans l'art, tout seul dans sa tour d'ivoire, dans son gueuloir, et puis voilà, à chercher l'absolu, à en souffrir même. Et ce qui nous reste de lui, ce sont notamment ses correspondances, que moi j'adore, hein, vraiment, où il s'attend, évidemment, il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'on le lise, hein, à ce qu'on le découvre comme ça, mais on y voit quelqu'un d'enflammé, de rustre parfois, de conservateur, mais aussi parfois très ouvert à tout. Et puis quelqu'un de très drôle, très drôle. Bon, il faut que je le relise, tiens, Flaubert. Oui.
Mais c'est très bien de se dire que tout d'un coup, vous allez pouvoir relire quelque chose qui est parti et qui va revenir. Mmh. C'est quand même bien, surtout que vous le dessinez quand même très très bien, Flaubert, il faut bien reconnaître.
Il est facile à dessiner.
Oui, oui, c'est assez... On sent une grande tendresse quand même dans le dessin. Alors ensuite, il y a l'épisode donc de cette Villa Médicis où vous allez du coup réapprendre à regarder la beauté, rentrer dans les églises, voir le Caravage, toujours des scènes un peu violentes, et chercher en vain le syndrome de Stendhal.
Stendhal a consigné dans ses quelques feuilles de son journal la description des symptômes ambivalents que nous avons pu constater chez tous les patients qui se sont présentés dans notre service. À la date du 22 janvier 1817, à l'occasion de sa visite à Santa Croce, il enregistre un état émotif proche de la crise des nerfs qui le pousse à sortir de la basilique où les monuments funéraires des grands du passé représentation de la mémoire et de la mort, ont suscité en lui un ensemble intolérable de sensations et de tensions. Il écrit dans son journal que son cœur s'est mis à battre de façon désordonnée et qu'il a eu l'impression que la vie l'abandonnait alors qu'il marchait en craignant à chaque pas de tomber. Il a donc été obligé de sortir sur la place pour la laisser s'asseoir sur une banque et relier des vers de Foscolo.
C'était la voix de Graziella Magherini, qui est psychiatre à Florence, justement, et qui a écrit un livre très documenté sur ce fameux syndrome de Stendhal, qui vous a posé un lapin, Catherine Meurice, quand même. C'est pas chic, parce que Stendhal, vous l'aviez quand même pas mal dessiné. Il aurait pu être au rendez-vous.
Je demandais peut-être trop. Oui, je me suis accrochée à ce syndrome de Stendhal, rien que parce que cette expression contenait le nom Stendhal, je pense. Je cherchais... de manière peut-être artificielle, cet éblouissement, cet évanouissement face à la beauté. Et puis finalement, ce syndrome n'est pas au rendez-vous. Et tant mieux, ça veut dire que je ne vais pas m'évanouir de nouveau, puisqu'en fait, l'évanouissement, il a eu lieu le 7 janvier. Cet évanouissement qui a duré de longs mois. Et là, je me réveille, en fait, en allant à Rome. Je prends mon envol, comme dirait Philippe Lançon dans sa magnifique préface à l'album. Je me réveille et j'ai pas l'intention de me rendormir. Là, je vais être attentive de nouveau et à toutes ces, faire rentrer tout ce qu'il y a de sensible ou de sensuel dans les perceptions. En tout cas, être attentive à tout ça.
On vous voit d'ailleurs dans un dessin un matin vous réveiller en disant j'ai envie, et c'est le premier j'ai envie qui arrive, j'ai envie d'aller voir le forum, l'église, j'ai envie, et c'est, le retour de l'envie,
exactement,
il est dessiné là,
le retour du désir, exactement, qui est un sursaut comme ça, je saute du lit et je cours voir le forum, et c'est réellement la première envie que j'ai eue en allant à Rome. Je voulais voir le forum parce que je pensais à Palmyre en fait, qui était en train d'être détruite, et alors je ne savais pas ce que j'allais trouver, enfin je connaissais le forum déjà, mais je savais pas ce qu'il en était de ce parallèle avec Palmyre, je sais pas, mon intuition me disait qu'il fallait que j'arpente le forum en me disant que peut-être que ça disparaîtrait de nouveau, donc il fallait que j'aille voir absolument avec des yeux encore plus grands que ceux que j'avais avant, et je voulais tout absorber comme ça, tout voir pour désespérément ou heureusement tout retenir enfin, et voilà, donc je raconte cette séquence dans l'album. Je me balade dans le forum sur le Mont Palatin et je vais aussi me planter devant les Caravages, pareil, sans réfléchir. Enfin, j'avais oublié toute l'histoire de l'art.
C'est une peinture violente, Caravage.
Très violente, et il se trouve que c'est vers elle que j'allais, bien sûr. Mais voilà, une fois de plus, cette violence, il fallait que je la traverse, et il fallait que je la traverse à travers le Caravage, que le Caravage m'invite à m'approcher de cette violence et qu'il m'invite au moyen de la beauté de son geste.
Il y a une séquence dans le Louvre. Alors, je vous envie, parce que moi, c'est mon fantasme. Je voudrais me faire enfermer la nuit dans le Louvre. Enfin, c'est assez banal hein, comme fantasme. Et là, vous avez dessiné quelque chose qui est un fantasme, c'est-à-dire une salle plongée un peu dans une pénombre et tout d'un coup, le regard qui tombe sur un tableau qui vous dit quelque chose.
Oui, c'est vraiment incroyable. Je vais au Louvre avec ma sœur et Ségolène Vincent, qui est une rescapée du massacre. Et on arrive dans cette grande galerie plongée dans le noir. Et avec Ségolène, on s'est dit, c'est dingue, on n'a eu pas du tout de chance le 7 janvier. Vraiment pas du tout. Et là, la chance arrive. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans cette pénombre de la grande galerie. Cette pénombre qui ne masque absolument pas les tableaux. On est allé approcher les Léonard de Vinci, les Archimboldo. On les voit. Il y a le bleu de la Sainte-Anne qui ressort. Et déjà, ça, c'est fabuleux. Et il y avait un halo lumineux mystérieux. Je ne sais pas si c'est un électricien qui avait, un technicien qui avait oublié d'éteindre.
À mon avis, c'est Stendhal pour se faire pardonner.
Exactement. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi il y avait ce halo lumineux sur un Caravage. C'était prodigieux. Là, cette double page que j'ai dessinée, c'est exactement ce qu'on a vu avec Ségolène et ma sœur Fanny. Cette diseuse de bonne aventure qui est éclairée toute seule, comme ça, dans cette galerie, dans ce Louvre immense. Je ne pouvais y voir que la sortie des ténèbres, une fois de plus, par grâce à un coup de pouce du Caravage, grâce à un coup de pouce des artistes.
Et oui, la peinture aussi fait partie, comme dirait Steiner, de la beauté et de la consolation, bien sûr. Et je vous présente Vinciane Lemonnier,
Bonsoir.
Qui est allée en quête de beauté et de légèreté sur la plage de Trouville.
Voilà, je suis allée pour vous dans un endroit qui unit en ce moment les deux formes de beauté que vous avez cherchées dans votre quête, Catherine Meurice, l'art et la nature. Il s'agit de Trouville-sur-Mer, sur la côte normande, où sont exposées depuis quelques jours des toiles d'Eugène Boudin, dehors, en plein air, sur la jetée. Alors en s'y promenant, on peut donc voir des tableaux impressionnistes qui sont complètement immergés dans le paysage marin tout autour. Sur la jetée près du phare, j'ai donc rencontré des passants et je leur ai demandé ce qu'ils éprouvaient face à ces tableaux et face à la mer. Et puis j'ai aussi demandé à une femme, Juliette, de poser son regard sur le dessin de couverture de votre album, où l'on vous voit de dos marcher sur le sable vers le large. C'était donc vendredi dernier, à Trouville, où le soleil perçait à peine derrière la brume.
T'es trop près, Manon. Pour ça que tu
non,
vois
non
pas.
Mais même. Moi, je vois pas bien. J'ai une opération des yeux. Alors, c'est pas moi qui vais le décrire.
C'est la jetée à marée basse.
La jetée à marée basse, oui. J'avoue que je vois mal.
On voit le phare de Trouville à droite et le phare de Deauville à gauche.
Ah ben voilà, les deux jetées.
On voit une barque de pêcheurs, je suppose. Un bateau échoué, un voilier et deux autres voiliers à l'horizon. Et moi, j'apprécie parce que d'abord, c'est en plein air. Et puis, ça nous ouvre les yeux sur Boudin, peut-être, à qui on ne pensait pas forcément. Enfin, à Trouville, on le connaît. Hein.
Ah, oui.
Et qu'est-ce qu'il provoque en vous, ce tableau ?
C'est-à-dire, ce qui est remarquable, ce sont surtout les ciels, Boudin. Il a fait des ciels magnifiques. Puis, il faut dire que c'est des tableaux qui sont plus agréables à regarder que d'autres. Parce que les tableaux tristes, moi, je ne les regarde pas.
Ah si, moi, je regarde. J'apprécie autant. Moi, je dirais ça fait s'évader.
Oui.
Et donc, peut-être oublier la tristesse de la journée, par exemple, ça nous fait nous évader.
Ah oui, oui, oui. Ça, quand on regarde les tableaux, on oublie.
Oui,
même si on est seul. Parce que là, on parle, évidemment, mais seul, c'est vraiment bien pour ça.
Bonjour. Je vous regardais observer les tableaux.
On aime bien la peinture de cette époque-là, la peinture impressionniste. D'avoir le paysage autour, ça contribue quand même au charme de l'exposition de ces panneaux. Hein. Ce repère par rapport aux scènes qui sont exposées.
Qu'est-ce que vous ressentez face à ces tableaux ?
Une émotion artistique avant tout. On ressent un peu les vibrations, des couleurs. Surtout cette peinture-là, ce sont des touches, c'est assez suggéré, c'est pas toujours dans la précision, donc c'est une émotion qui se dégage. Quoi. La beauté des couleurs, la beauté des formes. La beauté est importante. À l'heure actuelle, le gâchis de paysage, le gâchis de l'environnement, etc. Donc, c'est important d'être confronté à des images, à des belles choses, quoi, à des belles formes. Ça apporte une espèce de consolation, quand même.
Je vois une dame là-bas qui marche seule sur le sable. Je vais descendre sur la plage et aller la voir.
On y voit une femme seule marchant sur la crête d'une dune. Elle est de dos, elle marche légèrement courbée, tête baissée. Elle semble se diriger donc vers l'océan. Elle est habillée très simplement, jean, un imper à capuche sur laquelle retombe sa queue de cheval brune.
Bonjour madame. Pourquoi vous marchez sur la plage ?
C'est toujours apaisant, hein, une marche un peu solitaire. C'est très varié en fonction du temps et des marées. Puis c'est vivant.
Ça m'évoque d'abord une certaine mélancolie liée à la solitude de cette femme qui déambule vers l'océan. Puis aussi une forme d'espoir, parce que moi je la vois marcher d'un pas déterminé, donc c'est un peu laisser le passé derrière, puis aller vers l'avant, qui serait ici métaphorisé par la mer qui va s'ouvrir à elle. Au terme de cette promenade à flanc de dune.
Et vous vous dites quoi quand vous marchez ici sur le sable ?
J'ai toujours des émotions fortes à l'océan, moi. Je trouve que c'est ça, ça génère ces fameux sentiments océaniques. C'est pas l'enfermement, c'est la liberté.
Le sentiment d'être attaché à un tout.
Voilà, tout à fait. Puis ici, c'est flagrant parce que avec la brume et le ciel, on ne sait jamais trop où est la ligne d'horizon. Donc c'est vrai que c'est encore plus vrai, je trouve, sur la Manche qu'ailleurs. C'est plus doux comme couleur, même si c'est brumeux, mais il n'y a pas la violence du sud.
Je vois à l'horizon l'océan, d'un gris qui se perd dans le gris des nuages, comme le gris de la dune se perd lui-même dans le gris de l'océan. Donc je vois une grande homogénéité entre le paysage, le ciel, la mer, et puis sa situation à elle. Je pense qu'elle cherche à se redonner espoir et courage, et qu'elle se dit que peut-être un jour ça va aller, que ça va pas encore, mais que peut-être un jour ça va aller, et qu'elle va y arriver.
Donc vous, si vous aviez un paysage intérieur, ce serait la mer?
Ah oui, ça sera toujours la mer, oui. Et puis la Normandie particulièrement. Le fait qu'il y ait de la brume, je comprends les peintres, hein, c'est tout à fait particulier.
Bon, ben, je vais vous laisser continuer à marcher.
Merci.
Au revoir.
Là-bas, il y a un petit couple qui regarde les tableaux avec attention, qui prend du recul à chaque fois pour voir l'étoile.
Se faisait la réflexion, plus on se recule pour un tableau impressionniste, plus on en voit les subtilités. On est venu exprès promener, on habite Trouville, mais on est venu pour les voir tranquillement.
Donc là, on est devant une toile des lavandières.
Les lavandières, voilà, parce que c'était les femmes qui lavaient dans la touque même, dans la rivière. Et bah, c'est le reflet d'une époque en même temps. Hein. Elles battaient leur linge avec une espèce de palette en bois pour en extraire l'eau savonneuse qu'elles avaient obtenue en lavant leur linge carrément. Voilà.
Et vous, vous sentez comment face à ce tableau ?
On a le sentiment de la perfection du peintre. Moi, c'est ça à quoi ça me fait penser. Je suis toujours à me dire, je me demande comment on peut faire, comment on peut peindre quelque chose de si ressemblant. Là, bon, on voit pas de visage, mais les silhouettes qu'on voit, ça m'impressionne, ça me touche dans ce sens-là. Voilà.
Donc voilà. Pour vous, c'est important l'art,
oui.
La peinture,
oui, le plaisir de voir quelque chose de beau, le plaisir, oui, le plaisir de voir quelque chose de beau. Quand on a un beau paysage devant soi, quand on a le large là, ça remplit et puis ça rend heureux. Ça rend heureux.
Vous appelez comment ?
Claudine.
Merci beaucoup, Claudine. Il y a votre mari qui est déjà parti,
oui,
là. Quatre toiles plus loin.
Je vais le rattraper parce qu'il ne marche pas vite.
Cette exposition d'Eugène Boudin sur la jetée de Trouville a lieu dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste qui dure jusqu'au 26 septembre.
Mais les toiles ne sont pas exposées en plein vent, rassurez-moi.
Ce sont des reproductions.
Ah, d'accord. Non, c'est dommage, ça aurait pu être bien. Vous aimez Boudin, Catherine Maurice?
Ah oui, 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 beaucoup, beaucoup. Ses études aussi, ses croquis sont absolument fabuleux. Ah oui, oui, puis il est très proustien.
Ben
j'ai
oui.
L'impression d'entendre la petite sonate de Vinteuil derrière tout ça. Non, non, c'est.
Catherine Maurice, est-ce que votre dessin à vous, votre trait, a changé?
C'est difficile à dire. Ce que je vois, en tout cas dans la légèreté, c'est que dans toute la première partie qui est parisienne, mon dessin, et qui a été donc dessiné 5 mois après les attentats, je trouve mon dessin amaigri et sec, comme cela correspondait à mon état à ce moment-là. Après, à Rome, il se nourrit de nouveau, il se remplit, la couleur revient, et j'utilise des techniques un peu en désordre, mais intuitivement, comme le pastel, l'aquarelle, le pastel sec, je l'avais jamais utilisé avant. Donc je crois que j'ai envie, en tout cas, de peut-être faire évoluer doucement mon trait. Par ailleurs, je laisse tomber un peu le dessin de presse politique où je dessinais de manière très nerveuse. Bon, ça, mon dessin collait à l'actualité, donc j'ai utilisé la plume, l'encre de Chine, j'allais vite. Là, maintenant que je me consacre à la bande dessinée, je peux aller vers la rondeur, vers la lenteur, utiliser du crayon, du pastel. Quand je dessine le radeau de la Méduse dans la légèreté, j'ai utilisé du crayon, tout simplement. Et cette texture m'intéresse. C'est pour mon prochain livre qui parlera de paysage, justement, peut-être que je vais utiliser cet outil-là. En tout cas, les envies, on parlait de désir et d'envie tout à l'heure. Le désir est bien là, le désir de me nourrir et de... Oui, de me nourrir est là.
C'est bien, c'est une bonne nouvelle et on en a besoin. En tout cas, on a, grâce à vous ce soir, pu entendre de belles voix, parler de choses importantes, la beauté, la consolation. Et votre livre, parce qu'il nous dit beaucoup de choses, ce livre, La légèreté, est paru chez Dargo. C'était un plaisir de vous voir, Catherine Meurice.
Partagé, merci beaucoup.
Bonne route à vous.
Merci, merci. Au revoir. Infiniment.
Au revoir. C'est pas surprise si je dis à m'a chanté pour les mesures qui ont passé, pas quoi m'a j'en fin payé. Nous pas mou la grande société, n'a pour les sujets croisant dit maman, plutôt nous chanter souple, relais l'espoir côté lié, pour nous pas décourager, qu'à nous exister. Maman chérie, c'est où toute vie, détermination. J'ai tendresse, affection manquée, tout ça cause des situations. Garde l'anger, garde l'anger, c'est que nous tous décaprochés, maman. Contendez-moi de m'arriver. Maman, pas gain, jour sacré. L'issoute à l'exister. La caille flérose par entrée. Pour que moi devrais chercher la vie pour m'pas qui tout souffrir. C'est pas une vie manquée, pareil, c'est je pas nous un peu corriver. Pour que moi chercher la vie pour m'pas qui tout souffrir. C'est pas vie manquée, pareil, si je pas, nous on peut arriver, maman. Gageant la vie, fais-moi casouiller, fais-moi résiller. J'ai poigné, moi pas coupé, bien maman m'trimé, la primé. Tout en des chitans à parler, depuis tant de pralés passés, maman. Tout de suite, folguin de l'eau langée, l'eau sabon ange, moi aller. Même voler, moi ta voler, pour cap consoler. Son vieux madame qui gagne courait pour l'y résister. Après un carré son tête craté, les sourires m'ont défédéralé. Les petits petits m'ont nous parné, qui montaient pas qu'on déplacé, maman. Tout le monde pas fait pour errer, monde pas fait pour trop presser. C'est parce que qu'a observé, qui fait un guette et chargé. Que moi devrais chercher la vie pour pas qui tout souffrir. C'est pas une vie manquée, pareil, si je pas, nous on peut arriver. Où est que moi devrais chercher la vie pour pas qui tout souffrir.
C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Demain soir, nous nous retrouverons aux environs de 20h05. Je recevrai John Irving pour son dernier roman qui vient de paraître au Seuil. Et bien sûr, après les infos de 21h, vous le savez, vous avez rendez-vous avec Laurent Goumard qui nous annonce son menu du soir. Bonsoir Laurent.
Eh bien, bonsoir Kathleen Evin. Ce soir, ce sera aussi une émission pour les enfants. Comment leur parler de la guerre, de la Shoah? C'est à l'occasion de la sortie du film de Lola Doyon, Le voyage de Fanny. Et puis, il y aura de la BD, un mythe du genre, Loustal, en deuxième heure.
Eh bien, très bonne émission à vous, Laurent.
Merci, Kathleen. À demain et nous, à tout de suite.